Bonjour.
Bonjour Patrick Bruel, bonjour. Donc vous êtes à l'affiche de Villa Caprice, film qu'on espère voir bientôt.
Nous aussi.
Alors, donc vous interprétez Gilles Fontaine, un riche homme d'affaires qui a une superbe propriété, la Villa Caprice, mais avec quelques problèmes avec la justice, et c'est comme ça que vous faites appel au ténor du barreau, Luc Germont, interprété par Nils Arestrup. Drame policier signé Bernard Stora. Je suppose qu'en tant que cinéphile averti comme vous l'êtes, quand vous avez entendu ce nom, il est un des piliers du cinéma français, au même titre que Claude Miller ou Luc Béraud, vous vous êtes dit ça serait bien de le rencontrer. Est-ce que vous avez été jusqu'à téléphoner à Richard Berry, qui a déjà tourné deux films avec lui, pour voir un petit peu comment ça se passait?
Et non, je ne savais pas que Richard avait tourné avec lui, je l'ai appris qu'après. Non, ça s'est passé en deux temps, quand Bernard Stora m'a envoyé ce scénario, c'était il y a assez longtemps en fait. Et à l'époque, il y avait pas les deux personnages, en fait. Il y avait surtout un personnage. Enfin, ouais, peu importe, c'est très long ça, on ne va pas revenir là-dessus. Non, quand j'ai entendu le nom de Bernard Stora, je savais que c'était un metteur en scène évidemment très, très qualifié, qui avait fait beaucoup, beaucoup de films, mais surtout, ça a été un très grand assistant, des plus grands metteurs en scène. C'était formidable sur le tournage d'évoquer avec lui le souvenir qu'il avait des gens avec qui il a travaillé, que ce soit de la Patellière, que ce soit Melville, ou que ce soit enfin, tout un tas de metteurs en scène formidables. Ouais.
Et vous, de votre côté, vous avez directement senti le côté jouissif, dirais-je, de cette confrontation, un peu comme le public, les spectateurs, est fasciné justement par cette rencontre de deux monstres. Est-ce que vous aussi, à la lecture, ou est-ce que c'est un sentiment qui est apparu
Non.
par après au niveau des répétitions sur le
Non,
tournage?
instantanément à la lecture, j'ai vu qu'il s'agissait d'un formidable duo, formidable duel. En plus, quand je lisais, je savais qu'en face de moi, il y avait Nils Arestrup, ce qui a été évidemment déterminant dans mon choix. À partir du moment où on me donne la possibilité de tourner avec un tel acteur, j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce scénario et de l'aimer parce que j'ai envie de dire oui à ce film. Et donc, j'ai tout de suite accepté et on a beaucoup travaillé à la table avec Nils Arestrup et Pascal Robert-Dia et la scénariste
Et Sonia.
et Bernard Stora pour essayer d'optimiser le plus possible cette histoire, ces personnages. Moi, j'étais très touché par l'idée de jouer un gars un peu sombre, un peu machiavélique, un peu particulier, un peu tordu. J'ai pas l'habitude de jouer ces personnages-là, à part Una Familia que j'ai fait il y a pas longtemps en Italie et qui
Il y a
était
3 ans à Venise, c'est d'ailleurs là où on s'était
on
rencontrés.
s'était vu à Venise exactement et où le personnage était extrêmement sombre. En général, j'ai pas l'habitude qu'on m'appelle sur ce genre de registre, donc j'étais très content de pouvoir camper un personnage comme celui-là. Et je voyais qu'il y avait matière à faire une magnifique battle avec l'acteur en face de moi. Et ça a été le cas, ça a été un bonheur de tourner avec lui, ça a été un bonheur d'être dirigé par Bernard Stora, qui est vraiment un homme absolument délicieux, plein de surprises, très, très intéressant. Et puis, bon, quand vous avez les deux yeux bleus de Nils Arestrup plantés dans les vôtres, ça élève le jeu. Vous savez, c'est comme quand deux tennismans, on rencontre un grand tennisman en face de soi, on monte,
Donc, son propre
on
jeu.
élève son jeu, forcément, et on sait bien renvoyer la balle, je crois.
Alors, vous parliez justement d'une équipe scénariste. Pascal Robert-Dia, journaliste politique et chroniqueuse judiciaire, et Sonia, elle, qui était donc juriste. Je suppose que ça aide, parce qu'il ne faut pas commettre d'impair dans un scénario aussi pointu quand même,
Oui,
non?
c'est-à-dire qu'on est tenu à une certaine
Rigueur, non?
authenticité, à une certaine rigueur quant à la crédibilité, la véracité de ce qu'on raconte. Évidemment, ce film s'inspire d'affaires qui ont fait la une à peu près de tous les journaux sur ces dernières années, tous ces scandales financiers, toutes ces histoires de corruption. Donc les gens sont un peu avertis par rapport à ces sujets. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'envers du décor. On voit toute la préparation, tout le jeu qui se passe entre la justice et la personne qui est mise en examen. Et c'est très habilement fait. Ouais. Les dialogues sont très forts, les situations sont très fortes. Et ce sont deux personnages très, très, très intéressants parce qu'au fond, ils ont énormément de points communs. Ils sont tous les deux très seuls. Ils se sont tous les deux construits sur le père. L'un sur une présence trop importante, l'autre sur une absence trop importante. Ils ont tous les deux réussi extrêmement bien dans la vie. Ils ont tous les deux un peu foiré leur vie. Ils n'ont pas d'enfants. Ils pourraient s'entendre. Ils pourraient devenir des amis. Ils pourraient devenir des gens très proches. Mais il y a ces démons qui les rattrapent. Et qui va manipuler qui à la fin? C'est la grosse question qu'on se pose pendant tout le film.
Vous savez qu'on a l'impression de participer à une partie d'échecs, voire une double partie d'échecs.
Oui.
Vous avez le juge, et alors vous avez aussi votre avocat, un peu, qui pose aussi quelques soucis. Quoi. Ouais.
Ben, on est dans un vrai duel, exactement. C'est une partie d'échecs, c'est une partie de poker aussi, parce qu'il y a, ouais. il y a des prises de risques par moment, presque inconsidérées, mais et en même temps. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que quand j'ai lu le scénario, j'ai pensé tout de suite à garde à vue, j'ai pensé tout de suite au souper ou à diplomatie. Vous savez, à tous ces films où tout se passe dans le regard, ce sont de thrillers psychologiques, politico-psychologiques, qui pour un acteur, c'est un cadeau.
Alors, P14B, c'est un peu... Quel est le rapprochement entre le jeu d'échecs et le poker?
on est dans deux jeux qui ont beaucoup de points communs, notamment la relation analytique, l'étude du comportement, à la différence...
Bonne force, hein, pareil.
À la différence que les échecs... le jeu est complètement ouvert, on voit tout, alors qu'au poker on ne voit pas les cartes. Donc on doit faire marcher aussi son imagination sur l'idée de ce que l'autre peut avoir en main, et aux échecs on doit imaginer ce que l'autre a en tête. Donc c'est une nuance qui est à la fois très subtile et à la fois finalement très comparable.
Est-ce que justement cette possibilité d'analyse du comportement et cette concentration vous a aidé et vous aide encore dans votre jeu d'acteur?
Oui, bien sûr, forcément. L'acteur se nourrit est une éponge, se nourrit de tout ce qui l'entoure, de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Et il est évident que pour mieux se comprendre, il faut comprendre les autres. Donc l'étude du comportement est quelque chose qui me plaît depuis toujours, qui m'intéresse, qui m'attire. Je sais même pas si ça date pas d'avant même que je joue au poker. Enfin bon, à mon avis, ça c'est concomitant, mais c'est devenu très interactif. Le poker m'a aidé à comprendre beaucoup de comportements, et l'étude des comportements m'a aidé à déceler très vite le jeu de l'autre. Mais ça avait commencé avec les échecs, parce que mon premier jeu, ce sont les échecs. Donc oui, en effet, et là c'est vrai qu'on arrive en tant qu'acteur sur un rôle comme celui-là, c'est une vraie partie d'échec, c'est un vrai fight comportemental, ouais, vraiment, on est là-dessus.
Fontaine me dit, j'ai toujours pensé que cette maison sera moi un jour. Quels sont les rêves de Patrick Bruel à la veille de ses 62 ans?
Putain. Est-ce bien la peine de me rappeler
cet âge qui est encore un peu après d'ici de quelques mois?
Cet âge qui ne me correspond en rien. Les rêves, vous savez, c'est de continuer à jouer dans tous les sens du terme, à jouer à la comédie, à jouer avec mes enfants, à jouer au tennis, à jouer, et à jouer avec la, avec mon métier, avec mes métiers, parce que j'ai beaucoup de métiers finalement, j'ai beaucoup d'activités, que ce soit de la restauration, de l'huile d'olive, de l'entrepreneuriat, et en même temps ce bonheur de pouvoir exercer ce métier d'artiste et de pouvoir en vivre, c'est un privilège extraordinaire. Alors, quels sont mes rêves aujourd'hui? Mais ce sont les rêves de tout le monde. C'est que tout ouvre, que les théâtres rouvrent, que les salles de spectacle rouvrent, qu'on puisse repartir en concert, qu'on puisse retrouver le public, qu'on puisse être le 13 juin sur la scène de Forêt Nationale pour notre 9e Forêt Nationale de cette tournée. Et puis que le commerce reparte, que la vie reparte, parce que on est dans un... Parce que ça y est, maintenant, on n'est plus dans le domaine de l'exotisme et de l'anecdote. Et tiens, on vit un moment un petit peu à part, c'est incroyable, on pourra dire qu'on a vécu ça, c'est bon, on l'a compris là maintenant. Là, on a envie de passer à autre chose, on a envie que ça reparte. Parce que, quels que soient les secteurs, on est complètement fracassé là.
Pour revenir à Villa Caprice, vous dites, enfin Fontaine dit, en France, on n'aide pas les gens riches. Et en voyant Ville de la Caprice, j'ai pensé à la mésaventure de Luc Besson avec sa propriété. Est-ce que ça vous a aussi passé à l'esprit?
Je ne connais pas l'histoire de Luc Besson et sa propriété, mais on a un rapport avec le succès en France qui est toujours un petit peu délicat. C'est-à-dire qu'on est... On a toujours aimé les deuxièmes en France. Raymond Poulidor était beaucoup plus populaire que Jacques Anquetil. C'est très symbolique. La France n'a pas la culture du succès comme il y a la culture du succès aux États-Unis. Aux États-Unis, on aime voir que quelqu'un monte, réussit, explose, parce qu'on a toujours la sensation qu'on va pouvoir, en faisant l'effort, on va pouvoir se hisser à la même hauteur que lui. En France, on a souvent tendance à penser que quand on regarde quelqu'un monter, on a plus envie de secouer l'arbre pour que la personne retombe à votre niveau. C'est un peu une mentalité, moi je ne vais pas faire de généralité, mais c'est vrai que souvent c'était un peu le cas. Et puis en même temps, on ne peut pas tout avoir. Voilà, moi j'ai été beaucoup gâté, j'étais très gâté par le public qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui, qui est là et qui est toujours là. Donc ça peut susciter en effet parfois des jalousies ou parfois des certains comportements, mais à côté de ça, on va vous dire que c'est le prix à payer et que ce qui compte, c'est d'avancer, de faire ce qu'on a à faire et de le faire du mieux possible. Comme je dis à mes enfants, faites de votre mieux et rien ne vous sera jamais reproché. Et surtout, vous ne vous reprocherez jamais rien à vous-même. Le plus important, c'est ça, c'est de donner le meilleur de soi, de faire son effort. Et mon effort m'amène, oui, en effet, à des moments extraordinaires. Je vous le disais, 9 forêts nationales dans une même tournée. Je ne sais pas qui l'a fait jusqu'à maintenant, mais c'était extraordinaire. Je regardais les images de forêts nationales justement hier en me disant, mon Dieu, c'était le monde d'hier. Alors donc, on était en décembre 2019, la dernière fois que j'ai chanté là-bas. Vivement que ça reparte, quoi. Vivement que ça reparte. Merveilleux facteur de la comédie française.
Irène Jacob,
une amie depuis longue date. Donc c'est vrai que c'était un plaisir de retrouver ce casting. Quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai découvert les autres acteurs, je ne savais pas qu'ils étaient dedans, mais c'était comme des amis qui se retrouvaient. C'était vraiment superbe.
Frustration peut-être, Michel Bouquet.
Ah oui, ouais, ça c'est ma frustration parce que je pourrais dire une fois que j'étais dans un film avec Michel Bouquet, mais je n'étais pas avec Michel Bouquet, j'étais dans le même film que Michel Bouquet. J'aurais tellement aimé avoir une scène avec lui. Ouais.
Alors, j'ai vu dans votre film, qu'à vos heures perdues, vous êtes chauffeur de taxi à Paris, mais rien sur The Writer de Marco Sanguinetti. Ça sent tout ça.
Mais je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai rien vu, j'ai tourné, j'ai fait une soirée de tournage dans un taxi et je n'ai jamais eu aucune nouvelle. En fait, vous avez plus de nouvelles que moi. Je me souviens, mais le film est terminé, il est sorti, il existe, non?
Aucune projection annoncée.
J'ai tourné ça il y a quoi, il y a 10 ans? Il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Je me souviens de cette nuit. la rue de Rivoli, on était rue de Rivoli, on roule un taxi, avec un pote qui me dit ce que tu veux faire une participation. Je dis, bah oui, si tu veux, mais je ne sais même pas ce que je faisais, en fait.
Voilà. Alors, on va quand même parler un petit peu musique. Il y a surtout, on va commencer à le voir sur Insta, la sortie de votre CD ce soir ensemble, avec une chanson, je crois que vous voulez quand même nous parler, c'est le film.
Oui, c'est le père qui parle quand même, non ? Oui, c'est le père qui parle à ses ados. Ouais. C'est, vous savez, ce lien indéfectible qu'il y a entre un père et son enfant, et cette corde qu'il y a entre nous, où chacun tire le plus fort possible de son côté. Et évidemment, le rôle du père, c'est de jamais lâcher, c'est de tirer toujours, 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 même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand c'est insupportable. L'enfant vous demande de ne pas lâcher. Et au plus dur du plus dur, il faut tenir, 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 parce que si vous lâchez, comme ça tire très fort de l'autre côté, il part en arrière et s'effondre. Donc, c'est cette image qui m'a donné envie de cette chanson.
Et alors, la reprise de la tournée, vous en parlez, vous redémarrez en mai, le 6, Clermont-Ferrand, le 14, vous retraversez à Dijon, Genève, Nice, et alors le 13 juin à Forêt. Donc ça, quand même, on sera heureux de vous voir.
Et moi donc, qu'est-ce qu'on attend? Parce que vous savez, c'est pas que moi, hein, c'est 74 personnes sur la route qui depuis un an ne travaillent pas, attendent que ce soit, enfin je dis 74 parce que c'est ma tournée, mais c'est toutes les tournées qui sont arrêtées, c'est toute la production musicale qui est arrêtée, c'est une situation dramatique, et c'est vrai que de temps en temps, on peut être un peu agacé par les arbitrages, de se dire, moi je reviens de vacances, là j'étais dans un avion, il y avait 500 personnes dans l'avion, on était les uns à côté des autres avec des masques certes, mais les gens se parlent, les gens sont là, alors que dans une salle de spectacle, on est espacé, on a des masques, et on ne parle pas à celui qui est à côté de nous, et donc là, il n'y a aucun cluster, que je ne fais jamais partie d'une salle de spectacle, ni d'un restaurant, donc c'est pour ça que ces arbitrages sont un peu délicats parfois.
Pour revenir avec vos prestations sur Insta, c'était
Facebook.
Ouais. C'était un besoin, un peu comme un danseur qui a besoin de faire de la balade.
Oui, certainement. Au départ, c'était plus par amusement de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet instrument? Et puis le premier jour, j'ai vu qu'il y avait 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui se connectaient, et 400, 500, 600, 700 000 vues. Je me dis, oulala, il se passe un truc là. Alors je vais le refaire, mais je vais le faire un peu plus sérieusement. Je vais essayer d'être un peu moins nul technologiquement, et puis essayer de... Et je me suis beaucoup amusé à faire ma régie, à faire mon spectacle, à préparer, à faire mes petits sketchs, mes petites choses, mes histoires, mes maladresses. Mon espace pendant une heure à partager avec ceux qui voulaient, dans une grande bienveillance, évidemment gratuitement, à part qu'à un moment donné, j'ai dit, tiens, tant qu'à faire, si vous voulez faire des dons, on va s'adresser à des on va faire pour des associations. Ça a été utile, on a joué l'utile à l'agréable, on a passé des bons moments. À l'arrivée, 19 millions de personnes qui ont suivi ces lives, formidable. J'ai vraiment aimé ce moment, cette parenthèse. Et vu ce qui se profile, je vais certainement recommencer. Ouais.
Patrick, un grand merci. Et donc,
merci à vous.
On attend le Ville de la Caprice. À très bientôt.
Au grand plaisir. C'était quel média? Sur quel média vous travaillez?
Charles King. On vous a déjà pris au Charles King. On vous a déjà travaillé au Franco.
Ok, génial. Bon, à très vite. Au plaisir. Au revoir.